qu'importe les qualités naturelles. La grande richesse, c'est d'être saisi et transformé par l'esprit. Henri Grialou, enfant, veut devenir prêtre et perçoit confusément qu'il porte une mission. La découverte de Thérèse de Lisieux en 1908, il a 13 ans, lui ouvre des perspectives immenses. C'est au retour de la Grande Guerre que son chemin se précise. Au séminaire de Rodez, il lit une vie de Jean de la Croix, le réformateur espagnol du Carmel. Découverte bouleversante, appel irrésistible. Il ne sait rien du Carmel, mais il sait que Dieu veut l'y conduire pour suivre ce guide. À peine ordonné prêtre, à 28 ans, il entre au noviciat des Carmes d'Avon. Et là, il se plonge dans l'oraison, qui est en quelque sorte, disait-il, le soleil et le centre de toutes les occupations de ma journée. L'Esprit-Saint m'entraîne dans les profondeurs de son mystère. Au début de ma vie religieuse, disait-il, je crois avoir été saisi par l'Esprit-Saint, puis, en plusieurs circonstances, d'une façon vigoureuse et absolument certaine. Agir sous l'action de l'esprit n'est pas commode. C'est un chemin de foi. Comme le bon Dieu est transcendant, on ne sait jamais ce qu'il veut, disait-il. Il faut donc bien faire des projets, prendre des décisions raisonnables, mais en appelant l'Esprit Saint et en se tenant prêt à ce qu'il détruise tout. Bien souvent, il commence par contredire notre manière de voir. Alors, il faut marcher dans l'obscurité. Ensuite, il y a sa lumière qui est une certitude. Ici, le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus parle d'expérience. L'Esprit-Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux. Le père Marie-Eugène est livré à l'Esprit parce qu'il est un apôtre et que l'Esprit est le grand agent divin qui construit l'Église. Comment est-il apôtre ? Il est jeune religieux lorsque Thérèse de Lisieux est béatifiée et canonisée et lorsque Jean de la Croix est proclamé docteur de l'Église. C'est l'occasion pour beaucoup de prêcher en des milieux très variés, partout. Il perçoit la même avidité pour l'enseignement carmélitain sur la vie spirituelle. S'explicite pour lui cette mission qu'il porte. D'abord, former des apôtres qui soient des priants et des témoins authentiques du Dieu amour qui veut se donner. Puis, des apôtres qui connaissent l'enseignement du Carmel et qui aillent en plein monde rencontrer des hommes et des femmes pour les conduire aux sources jaillissantes. « Ma vocation, disait-il, est théologale. Je suis fait pour conduire les âmes à Dieu. » À Pentecôte 1929, il voit venir à lui Marie Pilla et deux autres jeunes femmes désireuses d'être guidées dans leur soif de se donner. Le jeune supérieur de 34 ans du couvent de Tarascon se dit intérieurement « Les voilà ». L'idée d'un groupe et d'une consécration se précise, jusqu'à ce que la propriété de Venasque lui soit offerte, ce sera l'Institut Notre-Dame de Vie. La formation de ses apôtres consistera surtout à les livrer à l'esprit grâce à des temps de silence et de solitude, grâce à l'apprentissage d'une union vivante, de la contemplation et de l'action. Des laïcs hommes et des prêtres diocésains viennent rejoindre le groupe féminin et Notre-Dame de Vie devient un institut séculier à trois branches autonomes. Mais le fondateur reste carme jusqu'au bout des ongles. Il conduit sa fondation tout en occupant de hautes charges dans l'ordre du Carmel à Rome et dans sa province. Pie XII lui demande aussi de visiter tous les Carmels de France et d'organiser leur fédération. Il trouve encore le temps d'écrire « Je veux voir Dieu », son maître ouvrage. À la lumière des saints du Carmel et de sa propre expérience, il prend le chrétien au début de la vie spirituelle et le conduit jusqu'au sommet de la sainteté. Lorsqu'il sent approcher sa mort, le père Marie-Eugène éprouve le besoin d'exprimer ce qui lui tient le plus à cœur, inviter les chrétiens à se livrer à l'Esprit. Il écrit dans son testament « Que l'Esprit-Saint descende sur vous, que vous puissiez tous dire que l'Esprit-Saint est votre ami, votre lumière, votre maître. C'est la prière que je continuerai certainement pour vous pendant l'éternité. » En 1967, il a 63 ans, un lundi de Pâques, jour où lui-même aimait célébrer la joie pascale de Marie, mère de vie, il passe sur l'autre rive de la vie.